Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet. Bonsoir à tous. Et si on en parlait, émission consacrée aux élections municipales, Loïc Barrière avec vous. À mes côtés, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, notre partenaire. Bonsoir.
Bonsoir.
Votre revue qui publie un numéro consacré aux territoires sous tension. Et nous avons le plaisir de recevoir la députée des Hauts-de-Seine, Isabelle Florenne, porte-parole du MoDem à l'Assemblée nationale. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Isabelle Florenne, pour commencer, quels sont les enjeux de ces élections municipales pour la majorité présidentielle à laquelle vous appartenez ?
Oui, alors j'appartiens à la majorité présidentielle, mais je distinguerai dans la majorité de partis. Il y a effectivement La République En Marche et il y a le MoDem. Et ces deux partis ont une histoire différente, comme vous le savez, et donc une implantation différente. Il n'y en a pas beaucoup pour La République En Marche, donc il y a un enjeu d'avoir des élus et de se constituer un ancrage territorial. Et puis pour le MoDem, il y a effectivement à conforter déjà des présences que nous avons dans un certain nombre de municipalités, d'où des discussions au sein de la majorité qui se sont pour un certain nombre bien passées et pour d'autres, évidemment, avec quelques divergences avec notre partenaire naturel. Donc, des enjeux un peu différents pour nos deux formations politiques.
Arnaud Benedetti.
Alors justement, puisque vous rappelez que la majorité, il y a plusieurs axes, dont le MoDem, est-ce que vous considérez aujourd'hui que finalement ces élections municipales ont été préparées de manière optimale avec votre partenaire La République En Marche ?
Elles auraient pu, à mon avis, sur un certain nombre de villes, être mieux préparées, en tout cas une concertation mieux faite compte tenu des enjeux. Et je trouve que pour certaines villes où ça a mal débarré, si vous voyez ce que je veux dire, notamment à Bordeaux, où ça se termine sur des situations, on va dire, un peu trop conflictuelles, à notre avis, à notre sentiment, on aurait pu faire mieux dans un certain nombre de cas.
C'est-à-dire que finalement, La République En Marche aurait pu mieux s'appuyer sur votre expérience territoriale et sur votre implantation, à vous, MoDem ?
On l'a dit dès le départ, et depuis longtemps, avec notamment François Bayrou, c'est que nous, on s'attache à ce qui se passe dans les villes, aux projets, aux personnalités qui portent les projets. Et ce qu'on a pu regretter, c'est que certains, et notamment de nos partenaires, parfois un peu jeunes, ou manqués d'expérience, n'ont pas forcément regardé cela et sont arrivés dans des stratégies beaucoup plus nationales. Alors qu'il faut voir les enjeux locaux, il faut faire un diagnostic des enjeux locaux, des personnes qui portent des projets et voir s'il y a des compatibilités et si ça vaut le coup de continuer. C'était notre cas pour le MoDem avec ses personnalités ou avec leurs successeurs, ou de faire et de bâtir ensemble, suivant les cas, une autre vision.
On peut prendre un cas concret. Vous êtes élu de Suresnes et de Nanterre. À Suresnes, vous, personnellement, vous soutenez un candidat de droite et du centre, alors qu'il y a un candidat, La République En Marche, qui est issu d'ailleurs du Parti Socialiste. Donc il y a un candidat, La République En Marche, et puis vous, le MoDem, vous soutenez le candidat Guillaume Boudy.
Voyez, ça c'est un bon cas de divergence. Et comme je l'ai dit, moi, là pour le coup, et dans un certain nombre d'autres villes, mais à Suresnes, j'ai trouvé que les choses n'étaient pas très compréhensibles, ne le sont pas pour les électeurs. On soutient un candidat qui porte un projet de rassemblement. D'ailleurs, ça divise dans toutes les villes, ça divise à Suresnes, mais ça divise dans nombreuses villes, les adhérents locaux, et donc on se retrouve finalement sur ces listes avec des personnes appartenant aussi au mouvement La République En Marche, et nous en avons sur notre liste, parce que les gens ne comprennent pas, quand on a une municipalité qui a un bon bilan, qui ouvre ses portes, comme ça a été le cas notamment de du candidat que je soutiens, qui ouvre ses portes depuis un an à ce rassemblement, qui est avec qui moi j'ai pu expérimenter pendant 12 ans un travail. J'aurais aimé plus d'écoute au sein du parti La République En Marche, plus d'écoute des élus. Et là, je trouve qu'en l'occurrence, c'est dommageable.
Guillaume Boudy est dans la continuité du maire sortant.
Absolument,
qui ne se représente pas
absolument.
À Suresnes. C'est une ville qui a été bien gérée, Suresnes.
Absolument. Bah, Guillaume y a participé. Guillaume Boudy a participé très directement à la gestion de cette ville et à son bon bilan. On y a tous participé dans l'équipe de Christian Dupuis qui ne souhaitait pas se représenter. Et Guillaume et Boudy étaient adjoints aux finances et donc pendant 6 ans a mené ce travail de gestion saine de nos finances, qui est important pour les Surénois, je le sais très bien. Et puis en même temps, Guillaume, ça fait 12 ans qu'il est dans cette municipalité. Et c'est aussi un élu de terrain, comme je le suis. On était chacun respectivement président de conseil de quartier, attaché aussi à la démocratie participative. Vous voyez, on porte un projet pour notre ville dans la continuité, mais aussi, je tiens à le dire, dans ce qu'a toujours voulu faire notre maire, Christian Dupuis, c'est-à-dire rassembler largement, au-delà des étiquettes, c'est ce qu'avait fait Christian Dupuis en faisant participer le MoDem dès 2008 et puis même en prenant à l'époque son opposant municipal sur notre liste qui venait du Parti Socialiste à l'époque.
Et il y a une autre ville Nanterre, ville de gauche, un candidat à la République En Marche,
oui.
Une liste conduite par le maire sortant. Patrick Jarry, communiste avec de nombreux socialistes, des écologistes, et puis une liste conduite par Camille Bedin, candidate de la droite. Vous avez choisi entre ces trois listes ou bien vous restez neutre ?
Alors là, sur Nanterre, le MoDem a choisi de rester neutre dans cette campagne, ne voyant pas très clairement les projets des uns et des autres, et puis ayant du mal. Malheureusement, sur la circonscription, ayant du mal dans les discussions et dans les choix. Donc, je pense que sur Nanterre, on verra à l'issue du premier tour, tranquillement, les forces en place. Chacun porte des projets. Bon, j'ai un certain nombre d'amis sur la liste conduite par le candidat de La République En Marche, mais j'ai aussi des amis qui s'interrogent sur les choix qui ont été faits. Donc, vous voyez, c'est compliqué dans un certain nombre de villes. Dans d'autres, ça a été naturellement très très vite et très simple pour notre parti aussi de trouver un accord. Donc c'est variable sur le territoire. On aurait aimé, franchement, plus de concertation dès le départ. Quand je dis ça, c'était dès le mois de juin, juillet, de s'écouter. Donc moi je dis maintenant, on va attendre ou le 15 ou le 22 mars. On mettra les pendules à l'heure. Moi, je le dis très clairement à mes partenaires de La République En Marche, je leur dis tous les jours sur le terrain, notamment à Nanterre, on va se retrouver, faut qu'on se retrouve pour envisager tranquillement, sereinement la suite des prochaines échéances. Et il y en a qui arrivent dès l'année prochaine, mais il faut aussi que chacun apprenne à travailler ensemble, à s'écouter, à savoir ce que c'est qu'aussi un partenariat politique. Il y en a qui apprennent.
Arnaud Benedetti.
Est-ce que vous jugez que finalement cette impréparation de La République En Marche est liée un peu à leur méconnaissance du local ?
Il y a une partie de manque d'implication, en tout cas de manque d'ancrage territorial, certes pour un certain nombre de personnes. Pour d'autres, il y a effectivement aussi un peu d'inquiétude. Pour certains, ils sont arrivés.
C'est une absence de professionnalisation du parti ? Pour vous ?
Professionnalisation, c'est un petit peu un mot qui me gêne, mais on avait souhaité, après les élections législatives, en tout cas présidentielles et législatives, vraiment dire aux personnes qui souhaitaient s'impliquer, allez dans les associations, inscrivez-vous dans ces démarches, apprenez à connaître ce travail de terrain, de proximité, et sortez des cadres nationaux, entre guillemets, des grands enjeux. Même s'il y a des enjeux nationaux, il faut connaître sa ville et rien de tel que de s'impliquer dans des associations locales. Ça va du parent d'élèves, d'associations sportives. Voilà. Et c'est ce qu'on a et c'est les gens qu'on souhaite aussi avoir sur nos listes et qu'en tout cas, moi, pour l'expérimenter depuis 12 ans, sont intéressants, sont les relais des habitants d'une ville.
Alors, vous avez parlé justement des enjeux nationaux. Est-ce que vous craignez que le climat national, la contestation du projet de réforme des retraites, entre autres, pèse, comme dans toute élection intermédiaire d'ailleurs, que constitue une élection municipale ou une élection régionale, sur l'issue du scrutin? Est-ce que vous craignez, entre autres, un vote sanction?
Je le mesure pour l'instant assez mal sur le terrain, à vrai dire. Pour y être depuis quelques semaines, finalement, peu de gens nous interrogent sur ces sujets, même si l'image actuelle de ce gouvernement et de notre travail législatif est quand même un peu entachée. Je pense que quand même, les habitants, en tout cas que je rencontre, les Surénois ou les Nantariens que je peux rencontrer, font quand même bien la distinction entre les enjeux locaux et les enjeux nationaux. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un vote contestataire qui peut arriver, qui peut se prononcer s'il y a abstention ou pas abstention, vers où se porteront ces voix. Ça, on a encore un peu de mal à le mesurer. Il peut y avoir un vote sanction, mais je ne sais pas encore vous dire vers quelle liste il pourrait se porter. Et on verra. Il faut analyser après, ville par ville, ces voix-là. Elles seront quand même intéressantes dans certains quartiers, notamment.
Isabelle Florenne, parlons aussi de la campagne parisienne. Le Modem s'est allié avec La République En Marche. Est-ce qu'Agnès Buzyn, qu'il y a encore 2 semaines ignorait qu'elle serait candidate, peut gagner le 22 mars? Elle est tête de liste dans le 17e, aux côtés notamment de Valérie Namias, issue du Modem, comme vous.
Oui. En tout cas, j'ai l'impression qu'il s'est passé quand même quelque chose dans la tête des Parisiens. En tout cas, si on regarde un petit peu les sondages d'opinion, ça apporte un... Enfin, il me semble, et c'était le souhait du Modem, qu'Agnès Buzyn a un profil et a fait appel à un large rassemblement autour d'elle et qu'elle y travaille toujours et qu'elle a des paroles... en tout cas assez apaisantes et qui vont dans le bon sens, qui vont dans le sens qu'on a toujours souhaité au Modem, qui était le sens du rassemblement et qu'on a eu du mal à construire à Paris.
Finalement, à vous entendre, elle a l'air d'être une meilleure candidate que Benjamin Griveaux, indépendamment des problèmes qu'il a eu.
On va voir. En tout cas, les sondages, je trouve, même encore celui de ce jour, est plutôt encourageant. On sait très bien qu'après, c'est par arrondissement que ça se joue, à Paris. Donc là, il y a tout un travail fin à faire. Mais tout l'enjeu pour Agnès Buzyn, et c'était le choix de cette candidature, c'était vraiment d'avoir une personnalité nationale, de notoriété nationale pour ces sujets. Je pense qu'elle a un profil aussi rassurant. Et apaisant, qui peut faire du bien à cette campagne.
Alors vous qui êtes très investi sur les questions d'égalité femmes-hommes, j'imagine que ça doit vous réjouir de penser que c'est une femme finalement qui dirigera Paris. Il y a très peu de suspense là-dessus.
Ah bah oui, là-dessus, effectivement, mais c'était déjà une femme, de toute façon.
Il y a le troisième tour.
La sortante, et puis il y a le troisième tour. À Paris, c'est toujours...
Ne l'oubliez jamais.
C'est un suspense, c'est pour ça qu'il faut regarder. Il faut regarder vraiment par arrondissement ce qui se passe encore pour les uns et pour les autres. C'est que les sondages, finalement, nationaux, enfin parisiens, mais globaux, comme sur Lyon, comme sur Marseille, veulent pas dire grand-chose si après, dans chaque arrondissement, vous avez des dispersions de voix, comme c'est le cas actuellement, aussi bien sur les listes de la candidate Rachida Dati que sur d'autres candidats. On voit bien qu'il y a quand même une grande dispersion, qu'il y a des dissidences, notamment dans certains arrondissements. Donc pour l'instant, c'est encore assez difficile à dire, et que le troisième tour, en tout cas que les années négociation entre les deux tours va être importante. Donc il y a un vrai enjeu pour le Modem et La République en marche de réussir aussi à faire ce rassemblement de deuxième tour.
Le programme d'Agnès Buzyn qu'elle a présenté notamment dans le journal du dimanche ce week-end. C'est un programme qui finalement est assez proche de celui de Rachida Dati. Elle axe principalement sa campagne sur deux sujets qui sont deux préoccupations majeures, hein, des Parisiens, la sécurité et la propreté. Mais ne craignez-vous pas justement que sur les questions par exemple environnementales ou les questions de démocratie, ce projet soit un peu en deçà et ne permette pas automatiquement de rallier une partie de l'électorat de centre-gauche, voire de gauche, dans un second tour de l'élection municipale?
J'ai lu ces propositions. Moi, elles me semblent répondre à ce que tout ce qu'on entend est des préoccupations des Parisiens depuis un certain nombre d'années à Paris. Quand vous interrogez, quels que soient les arrondissements, il y a un problème sur la gestion de la question, effectivement, de la propreté. Et ça, moi, je peux vous dire, puisque les Parisiens qui viennent notamment à Suresnes font même la remarque d'une meilleure gestion dans nos villes de proximité qu'à Paris. Donc là, il y a des vraies questions sur la sécurité. On est content d'apprendre que Anne Hidalgo va faire enfin des propositions en matière de police municipale. Enfin, elle est à la gestion de cette ville quand même depuis un certain nombre d'années. Et on apprend qu'elle évolue sur ces sujets. Tout le monde évolue. Il y a des questions. Après, la question écologique, elle n'est pas absente du programme d'Agnès Buzyn, d'après ce que je l'ai bien lu.
Cédric Villani ne l'a pas beaucoup vu, apparemment.
Alors, ils ont pas, je pense, là, plus des questions peut-être d'engagement et politique, et que c'est arrivé un petit peu trop tard pour un rapprochement, ce qui est regrettable, hein, mais depuis le départ, quand je vois maintenant les pourcentages dont est crédité Cédric Villani, je me dis que tout ça est finalement un beau gâchis de démarrage de campagne et qu'on aurait pu quand même se mettre d'accord. Bon, ça c'est dommage. Moi, je considère que c'est une mauvaise gestion du démarrage de campagne et qu'il était difficilement rattrapable. Maintenant, un deuxième tour, c'est, vous le savez très bien, une nouvelle élection. Et donc, forcément...
Alors justement, dans le cadre d'un deuxième tour, est-ce qu'on peut imaginer une hypothèse, hein, bien évidemment, d'une alliance entre Rachida Dati et Madame Buzyn pour faire battre Madame Hidalgo? Et est-ce que vous pensez que La République En Marche serait prête, par exemple, à soutenir Madame Dati si celle-ci virait en tête au soir du premier tour?
J'ai surtout compris que La République En Marche et le Modem allaient tout faire pour que ça soit dans l'autre cas de figure qui se présente et que Agnès Buzyn soit en tête ou la mieux placée pour faire ce rassemblement autour d'elle. Ça, c'est l'enjeu actuellement, à 15 jours du scrutin. La dynamique est bonne, moi, je trouve, depuis quelques jours. Après, toutes les discussions sont possibles. Des rapprochements entre conseillers d'arrondissement qui se connaissent bien et qui seront les élus qui, in fine, porteront ce choix... c'est à eux aussi de le décider. Moi, je pense qu'il y a des convergences possibles entre un certain nombre de personnes quand je vois les arrondissements dans lesquels se présentent notamment certains de mes amis dans le 15e arrondissement. Je pense que là, on aurait pu notamment éviter une division avec les Républicains sur cet arrondissement. Bon, voilà, on verra comment les choses se présentent au deuxième tour.
Un point, Jérôme Dubus, qui était numéro 3 sur la liste d'Agnès Buzyn, de Benjamin Griveaux dans le 17e, a été écarté. Est-ce que vous comprenez finalement cette décision?
Je suis pas assez fine connaisseuse du 17e.
Il a été écarté parce qu'on lui reproche sa participation à la manif pour tous.
Ah, d'accord. Donc, écoutez, je sais pas si ça a lieu. Enfin, moi, j'ai vu Monsieur Dubus intervenir et défendre une ligne qui n'était pas, à ma connaissance, celle-là, quand il a présenté les projets pour Paris. Donc, ça, voyez, c'est ce qu'il faut pas faire. Vous voyez, ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire à La République En Marche. Je le dis très clairement, ce genre d'attaque sur des choix qui ont pu être à certains moments, mais qui relèvent... Notre maire l'a dit hier. Chacun peut avoir des choix personnels. Maintenant, sur une élection municipale, je ne crois pas que ça ait rentré en jeu.
Vous écoutez Radio Orient, l'émission « Et si on en parlait » en compagnie de la députée des Hauts-de-Seine, Isabelle Floren, porte-parole du MoDem à l'Assemblée nationale. On se retrouve dans quelques instants. Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet. Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet. Deuxième partie de « Et si on en parlait ?», émission consacrée aux élections municipales. Nous sommes toujours en compagnie d'Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, notre partenaire. Et je rappelle que notre invitée, la députée des Hauts-de-Seine, Isabelle Floren, porte-parole du MoDem à l'Assemblée nationale. Alors, en 2017, l'Assemblée nationale s'est féminisée. En revanche, on constate que les têtes de liste dans les villes sont majoritairement des hommes, même s'il y a une parité dans les listes. Alors, on a parlé de Paris qui fait figure d'exception. Comment expliquez-vous qu'il y ait si peu de femmes maires ou têtes de liste ? Pour certaines villes, j'ai reçu 5 candidats, il n'y avait pas une femme.
Oui, oui, c'est parce que... oui. Je l'ai vu, hein, on le constate comme vous, c'est encore difficile d'attirer des femmes sur nos listes, c'est très clair. On y travaille, ça s'améliore. Je peux le constater depuis 6 ans quand même, on a de plus en plus de candidates. Mais pour les femmes, ça reste encore un engagement difficile à prendre, malheureusement. On le regrette, mais vous savez, on était encore, il y a 12 ans, je peux vous en parler, j'étais adjointe au maire et quand je venais dans les conseils, je me trouvais toujours un petit peu ovni en étant mère et en ayant des jeunes enfants. Vous voyez, et pourtant, vous avez des tas de femmes qui sont engagées dans des associations, notamment parents d'élèves ou autres.
Mais justement, par exemple, dans une ville comme Suresnes...
Oui, mais franchir le stade de la présentation à une élection municipale, ça reste un engagement pour elles difficile à prendre en termes parfois d'organisation, de vie familiale.
Il est plus facile d'être femme et parlementaire que d'être femme et maire de sa commune ?
On a des moyens. Oui, alors parlementaire, là on a fait un bond en avant en 2017 et c'est une très très bonne chose. Après, on a des moyens différents. Il faut savoir que conseiller municipal, adjoint au maire, on n'a pas des collaborateurs, on n'a pas la même gestion de son agenda et pourtant... Et pourtant, Dieu sait si dans une ville moyenne, il est déjà très chronophage. Donc, ça nécessite de l'organisation parlementaire, ça donne des moyens plus importants.
Et justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire, Isabelle Floren, pour que des femmes puissent être maires ? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre au sein des partis politiques, au sein aussi des mairies, des habitudes à changer ?
Globalement, dans le milieu politique, il faut faire ce qu'on fait actuellement. Hein. Il y a des campagnes pour ça. Il faut peut-être travailler un peu plus aussi globalement, vous savez, au-delà des femmes, sur un statut de l'élu. On essaye de l'améliorer, mais ça demande du temps. Mais c'est de permettre aussi de se libérer du temps, que ce temps que nous passons aussi au service des collectivités puisse être reconnu, puisse être un temps au-delà même de l'indemnité, qui soit un temps reconnu dans une vie globale, dans une vie professionnelle globale. Là-dessus, il y a encore du chemin à faire, mais c'est un travail de longue haleine à mener pour attirer aussi des femmes, bien sûr, mais au-delà des femmes, des personnalités nouvelles. Parce que c'est ça qui est intéressant, notamment dans une collectivité, c'est faire venir des gens qui ont des expériences, qui ont des pratiques différentes, une vision différente. C'est ça le renouvellement profond de la vie politique qu'on souhaite. Vous parliez de professionnalisation. Oui et non. Non, je pense qu'on voit bien, les Français ont envie que ça change. Ils ont envie d'avoir des nouvelles têtes. Et pour attirer des nouvelles têtes, pour attirer des nouvelles personnes, il faut aussi que ce qu'on propose et que ce qu'on propose aux élus soit aussi attirant et différent.
Mais vous entendez parfois le reproche d'amateurisme qui est fait à la majorité ?
Oui, moi j'entends bien, mais ça pour moi, l'amateurisme, c'est autre chose.
Le président de la République, devant les parlementaires de la majorité, l'a excipé presque comme une valeur pour cette majorité.
En disant, regardez tout ce qu'on a fait pour des amateurs. Non, mais c'est... Bon, il y a effectivement à apprendre, parce que la politique, c'est quelque chose de complexe, et puis c'est un art complexe, mais franchement... dans les gens que je rencontre tous les jours, dans les gens avec qui sont mes colistiers à Suresnes, qui sont avec moi à l'Assemblée nationale, vous avez des compétences et des gens qui ont très largement compris. Quand vous avez l'expérience d'une vie associative, quand vous avez l'expérience d'une entreprise, vous savez composer, vous savez discuter, vous savez négocier. L'amateurisme, pour moi, c'est autre chose. Hein. C'est partout, ça existe. Malheureusement, il faut être humble, modeste, savoir apprendre. Mais quand vous avez la chance de rencontrer des personnes qui ont ces qualités, il faut aussi après pouvoir les attirer pour renouveler ce que les Français veulent vraiment. Je pense que ces élections seront intéressantes pour ça.
Est-ce que le rôle du maire a changé ces dernières années, notamment avec l'irruption des réseaux sociaux, qui peut parfois créer une forme d'impatience ? Vous êtes interpellé directement, mis en cause. Est-ce que ça a changé aujourd'hui ce rôle du maire ?
Alors, le maire reste un des élus, l'élu préféré des Français quand même. Hein. Ça, c'est, faut le dire, dans le paysage politique, il a encore au moins cette respectabilité et au moins cette confiance dont on souffre par ailleurs, parlementaires ou autres élus moins connus. Donc ça, c'est quand même quelque chose de fort. C'est la personne, c'est l'élu vers lequel on se tourne en premier. Alors, ça veut dire aussi que tout lui retombe dessus quelque part. Donc toutes les responsabilités, évidemment, il y a l'actualité, il y a le médiatique qui intervient. Mais au-delà de ça, un maire doit être prêt il faut aimer ça, il faut être en confrontation directe pour le positif comme pour le négatif. Mais et puis après, il y a la différence de taille suivant que vous êtes commune, petite commune, ou que vous êtes dans une agglomération beaucoup plus grande ou d'une métropole. Et là, les enjeux sont pas les mêmes.
Si l'on en croit les sondages, encore faut-il les croire, ce que l'on constate, c'est que finalement, beaucoup de maires sortants vont peut-être ou vraisemblablement être élus. Comment vous interprétez finalement ce besoin de stabilité du corps électoral après 2 ans ou 3 ans de bouleversements politiques profonds ?
Il y a d'une part les bilans, une question de légitimité, de notoriété. On sait que ça joue. Hein, les habitants ont tendance à se tourner vers les gens qu'ils connaissent. S'il n'y a pas une erreur majeure dans un mandat, s'il n'y a vraiment pas un sujet clivant, et ça va bien au-delà des problèmes politiques. C'est un projet, c'est une erreur dans la gestion du mandat qui peut être mal interprétée, mais ça, c'est pas forcément... Et ça cause un problème et ça pose un problème, mais même au-delà de ça, c'est difficile. Quand un maire est connu, bien aimé, qui fait bien son boulot, comme nous disent les gens, bon oui, il a plutôt bien fait son boulot, il n'y a pas de raison, entre guillemets, de le changer. Bon, je parle pour des villes moyennes, en deçà de 180, 100 000 habitants. Après, vous le savez très bien, on les a évoqués, au-delà d'une certaine taille, bon, ça se politise un peu plus.
Ça se nationalise.
Ça, voilà. Bon, et là, on sait qu'il y a d'autres sujets. Mais moi, je pense que quand il n'y a pas vraiment eu d'erreur majeure, que les gens apprécient une personnalité, un maire, c'est avant tout ça. C'est quand même une mère ou un maire. C'est quand même ce contact. C'est quand même ce rassemblement autour de personnalités qui, au-delà même des clivages politiques, c'est prendre les bonnes décisions pour une ville.
Tous les candidats aux municipales présentent des mesures écologiques. Je crois que le mot que j'ai le plus entendu depuis quelques semaines, c'est végétaliser. Ouais. Est-ce que l'échelon local est vraiment le plus adapté pour lutter contre le réchauffement climatique ?
Oui, parce qu'on peut prendre des décisions, mais nous, enfin, je trouve ça bien qu'on le mette, parce que c'est important. Il y a des communes qui le font depuis longtemps, hein, et heureusement que les maires n'ont pas attendu le législateur pour végétaliser les toits, changer les revêtements de leurs routes, mettre des bornes et équiper leur parking municipaux de voitures électriques ou de vélos électriques. Enfin, je veux dire, avant même le législateur, je peux vous dire que sur les questions écologiques, heureusement qu'on a eu des maires qui avaient conscience qu'il fallait évoluer sur ces sujets. Donc évidemment, c'est un enjeu, notamment dans l'agglomération parisienne, hein, puisqu'on est confronté à des épisodes réguliers de pollution ou de canicule, et que ces questions-là sont des préoccupations majeures. Mais en plus, il y a des vrais sujets. Moi, je préside un conseil de quartier, et sérieusement, depuis des années, ces questions d'agir localement, des citoyens ont envie et se constituent naturellement en écoquartier, en association, et essayent de promouvoir des bonnes pratiques, aussi bien de recyclage que de sujets de biodiversité. J'ai la chance, et on a la chance de vivre dans les Hauts-de-Seine, dans un département particulièrement vert et agréable, hein, dans une partie de nos communes pour ça, et donc d'avoir des citoyens qui ont cette préoccupation depuis de nombreuses années.
Isabelle Florenne, on peut s'attendre à une vague verte en France. Je vois notamment sur les listes de gauche, on se débrouille parfois pour mettre plutôt le candidat écologiste en tête de liste, et puis vous avez les autres partis de gauche derrière, ce qui n'était pas le cas en 2014.
Oui, on voit bien qu'une partie de la gauche s'est verdisée sur les listes. Oui, bah, y a un phénomène très clair, mais là, moi, je pense que c'est plus... Alors, je dis pas,
c'est du marketing,
oui,
c'est une tête
aussi
de gondole.
En partie pour certains que je connais, pas tous, mais moi je vois que les mouvements dépassent l'étiquette politique. Hein, chacun le met dans ses priorités, puis c'est ça, c'est une bonne chose. Après, je vous le redis, ça dépend de la personnalité. Il y a des gens sincères sur toutes les listes, il y a des gens qui croient à ce qu'ils disent, et puis il y a ceux qui font effectivement de la com.
Isabelle Florenne, pour quelles raisons le président Macron s'est-il emparé du thème du communautarisme, qu'il appelle séparatisme, juste avant ces élections municipales ?
Oui, alors le sujet arrive actuellement, mais il n'est pas nouveau. Et depuis longtemps, certains le pressent de s'exprimer sur ces sujets, parce qu'il y a une réelle, il y a un réel enjeu, hein, sur ces questions. Les termes évoluent, et certains ont souhaité que ça évolue vers ce terme de séparatisme plutôt que de communautarisme. Et bon, je pense que effectivement c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'il y a une réalité qui, au-delà, je pense que c'est dense un certain nombre de quartiers. Et pour cela, il y a des alertes régulières d'un certain nombre d'élus locaux. Il y a vraiment besoin de travailler différemment.
Plus de république dans ces quartiers.
Ça a été le cas avec la création des quartiers de reconquête républicaine, hein, depuis un certain nombre de mois, qui donnent des résultats positifs. Donc c'est pour ça que le président de la République, avec le ministre de l'Intérieur, ont souhaité se déplacer dans ces quartiers. Je crois qu'il y a un certain nombre d'autres déplacements qui sont prévus pour montrer aussi ce qui se fait, les moyens donnés pour justement permettre aux associations, aux écoles et également aux forces de l'ordre d'être présents, parce qu'il y a vraiment des questions. Et puis, je pense qu'il faut écouter beaucoup les élus locaux qui sont directement confrontés aux questions qui se posent dans ces quartiers. Bon, je peux vous le dire, hein, on le vit très concrètement dans certains quartiers de ma circonscription, et il y a des questions...
Bien sûr,
plus à Nanterre qu'à Suresnes, avec des élus qui régulièrement, maintenant, depuis quelques temps, et depuis le début de mon mandat, m'alertent sur ces sujets. Et c'est pour ça qu'il faut que et les élus, tous les élus parlementaires, élus de terrain, nous soyons présents pour travailler au plus près de tout ce qui peut et ce qui représente notre République et tout ce qui est facteur d'intégration.
Publics,
bien
l'école,
sûr,
par exemple,
bien
à, sûr. À Nanterre, semble-t-il, de nombreux enfants de Nanterre préfèrent aller dans d'autres écoles qu'à Nanterre.
Eh bien, écoutez, quand ces écoles sont reconnues et appliquent les règles de la République, il n'y a pas de problème. Mais quand on peut constater des déviances, là, il faut agir. Moi, là, je fais confiance à la préfecture. Hein. Je pense que aussi nos préfets, dans chacun de nos territoires, sont aussi les gardiens. Et en cela, on doit travailler. Moi, c'est le cas dans les Hauts-de-Seine, de travailler en lien étroit et très régulier sur ces sujets.
Sur cette question, on attend toujours le grand discours du président de la République sur la laïcité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il arrive un peu tard?
Écoutez,
au bout de 2 ans et demi de mandat, presque 3 ans d'ailleurs.
Je ne sais pas si ça arrive tard, j'ai l'impression
qu'il a été annoncé,
j'ai l'impression, d'après ce que j'ai compris, qu'il voulait plutôt se déplacer et à chaque déplacement annoncer quand même et faire quelques annonces avec les élus, notamment sur les imams, comme on l'a vu la semaine dernière lors de son déplacement à Mulhouse, sur ce travail qui est mené. Mais il veut le faire au-delà même du grand discours et des moyens qui sont donnés. Parce qu'il faut aussi des moyens d'intervention et des moyens donnés aussi de contrôle. Je pense que ces déplacements dans chacun de ces quartiers, sont mieux que les grands discours. Vous savez, les grands discours, parfois, s'ils ne sont pas suivis des faits, ça ne sert pas à grand-chose. Moi, je préfère les faits, les actes. Et j'ai l'impression, en tout cas, de ce que je vois du gouvernement, qu'on agit depuis plus de 2 ans sur ce sujet, mais que ça prend du temps et qu'il faut sans arrêt travailler avec les différentes communautés sur le terrain, en étant vigilant à ce que on peut ne pas voir de façon flagrante, mais en gardant ce lien très clairement avec notamment les écoles, les collèges, les lycées, toutes ces personnes qui sont en lien, qui voient le quotidien, qui voient le quotidien de leur quartier, ces associations qui le vivent au quotidien, eux sont capables de nous alerter. C'est pour ça que parlementaires comme élus locaux, on doit être vigilants.
Arnaud Benedetti.
Oui, alors les élections municipales, c'est des élections locales, c'est des élections qui nous permettent de réfléchir sur les territoires aussi. Et Loïc a rappelé la publication de la revue politique et parlementaire sur les territoires à la veille des municipales. Ce qui ressort de ce dossier globalement aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme d'incompréhension à la fois qui est partagée par une partie de l'électorat, une grande partie de l'électorat et une partie des élus locaux quant à la carte territoriale. C'est-à-dire que, in fine, la France, aujourd'hui, territorialement, est devenue inintelligible, voire illisible pour à la fois un grand nombre de décideurs et pour les électeurs. Comment on peut finalement rendre plus intelligible et plus lisible cette France territoriale? Et est-ce qu'il faut un acte 4 de la décentralisation qui clarifie clairement à la fois les compétences et les échelons?
Non, mais vous avez raison, vous avez bien fait de faire un travail là-dessus, puisque c'était déjà aussi des préoccupations qui étaient ressorties du grand débat. On voyait très bien que les Français étaient perdus, et puis que dans la crise qu'on a vécue des Gilets jaunes, il y avait des réelles questions qui se posaient sur les territoires. Oui, il y a une loi qui arrive, qui est en discussion, qui va arriver au Sénat, qui s'appelle 3D, hein, décentralisation, également la question de la différenciation. Je pense que vraiment, moi je parle de ce que je connais, du territoire dans lequel je vis. Ben, on vit une métropole qui est très peu identifiée, la métropole du Grand Paris. On vit dans un paysage administratif incompréhensible pour les franciliens que nous sommes, avec plus de 5 échelons, donc aucune visibilité très, 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 très claire pour les habitants, à part la mairie, éventuellement la région, la métropole, personne n'a rien compris. Et donc ce flou-là, moi je regrette qu'on n'ait pas pu prendre de décision plus tôt dans notre mandat, notamment sur la métropole, parce que nous, très clairement, la constitution de cette métropole, visiblement, n'est pas à la bonne échelle, nous semble-t-il. Donc voilà, maintenant tout ça va être porté après les élections municipales. Espérons qu'on arrive à nous adapter et à nous adapter aussi aux souhaits des citoyens sur ces sujets.
Merci Isabelle Florenne d'avoir été l'invitée de « Et si on en parlait ?». Je rappelle que vous êtes députée des Hauts-de-Seine, porte-parole du MoDem à l'Assemblée nationale. Merci également à Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Je renvoie au dernier numéro de la revue consacré aux territoires sous tension. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition de « Et si on en parlait ?».« Et si on en parlait ?» Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.